Les moines étaient déjà au travail. Dans le scriptorium régnait le silence, mais ce n'était pas ce silence qui résulte de la paix fertile des cœurs. Béranger, qui nous avait de peu précédés, nous accueillit avec embarras. Les autres moines levèrent la tête de leur travail. Ils savaient que nous étions là pour découvrir quelque chose au sujet de Venantius, et la direction même de leur regard fixa notre attention sur une place vide, sous une fenêtre qui s'ouvrait à l'intérieur, sur l'octogone central. Bien que la journée fût très froide, dans le scriptorium, la température était assez douce. Ce n'est pas par hasard s'il avait été disposé au-dessus des cuisines d'où provenait une chaleur suffisante, pour cette raison supplémentaire que les conduits des cheminées des deux fours situés au-dessous passaient à l'intérieur des piliers qui soutenaient les deux escaliers à vis placés dans les tours occidentales et méridionales. Quant à la tour septentrionale, du côté opposé à la grande salle, elle ne renfermait pas d'escalier, mais une grande cheminée qui ardait en répandant une agréable tiédeur. En outre, le pavement avait été recouvert de paille qui rendait nos pas silencieux. En somme, le coin le moins réchauffé était celui de la tour orientale, et de fait, je remarquai que, comme il restait des places libres par rapport au nombre de moines au travail, tous tendaient à éviter les tables installées dans cette direction. Lorsque plus tard je me rendis compte que l'escalier à vis de la tour orientale était le seul qui menait et en bas au réfectoire et en haut à la bibliothèque, je me demandais si un calcul savant n'avait pas réglé le chauffage de la salle de façon que les moines fussent dissuadés de fureter de ce côté-là et qu'il fût plus facile aux bibliothécaires de contrôler l'accès de la bibliothèque. Mais sans doute exagérais-je dans mes soupçons, devenant le pauvre singe de mon maître, car je songeais aussitôt que ce calcul n'eût pas été très fructueux en été, à moins, me dis-je, qu'en été ce côté ne fût le plus ensoleillé et donc, encore une fois, le plus évité. La table du pauvre Venantius tournait le dos à la grande cheminée et était probablement l'une des plus convoitées. J'avais alors passé une petite partie de ma vie dans un scriptorium. J'en passais une grande par la suite, et je sais combien il en coûte de souffrance aux scribes, aux rubricaires et aux chercheurs de rester à sa table les longues heures d'hiver, avec les doigts qui s'engourdissent sur le stylet, quand déjà, avec une température normale, après 6 heures d'écriture, les doigts sont pris de la terrible crampe du moine et que le pouce fait mal, comme s'il avait été écrasé. Et cela explique pourquoi nous trouvons souvent en marge des manuscrits des phrases laissées par le scribe comme témoignage de souffrance à la limite de la patience, telle que « Grâce à Dieu, il ne va pas tarder à faire sombre » ou bien « Oh, si j'avais un bon verre de vin » ou encore « Aujourd'hui, il fait froid, la lumière est faible, cette peau est pleine de poils, quelque chose ne colle pas. » Comme dit un ancien proverbe, « Trois doigts tiennent la plume, mais le corps entier travaille dur et endure. » Mais je parlais de la table de Venantius. Plus petite que les autres, comme du reste celle qui était placée autour de la cour octogonale, destinée à des chercheurs, tandis qu'elles étaient plus larges sous les fenêtres des murs extérieurs, car destinées aux enlumineurs et aux copistes. D'ailleurs, Venantius aussi travaillait avec un lutrin, parce qu'il consultait probablement des manuscrits en prêt à l'abbaye dont il faisait la copie. Sous la table était disposé un rayonnage bas où étaient entassées des feuilles non reliées, et comme elles étaient toutes en latin, j'en déduisis qu'il s'agissait de ses traductions les plus récentes. Elles étaient écrites de façon hâtive, ne constituaient pas les pages d'un livre et auraient dû être confiées ensuite à un copiste et à un enlumineur. Raison pourquoi elles étaient difficilement lisibles. Entre les feuilles, quelques livres en grec. Un autre livre grec était ouvert sur le lutrin, l'ouvrage sur lequel Venantius accomplissait ces jours derniers son travail de traducteur. À cette époque, je ne connaissais pas encore le grec, mais mon maître lut le titre et dit que c'était d'un certain Lucien et qu'il s'agissait de l'histoire d'un homme transformé en âne. Je me souvins alors d'une fable analogue d'Apulée qui, d'habitude, était sévèrement déconseillée aux novices. Comment se fait-il que Venantius avait en cours cette traduction ? Demanda Guillaume à Béranger, qui était à nos côtés. C'est le seigneur de Milan qui l'a demandé à l'abbaye, et l'abbaye en retirera un droit de préemption sur la production de vin de plusieurs domaines qui se trouvent à Lorient. Béranger indiqua une direction lointaine d'un geste de la main, pour ajouter aussitôt « Ce n'est pas que l'abbaye se prête à des travaux vénaux pour les laïcs, mais le commettant s'est employé pour que ce précieux manuscrit grec nous fût prêté par le doge de Venise, qui le reçut de l'empereur de Byzance, et quand Venantius aurait eu terminé son travail, nous aurions fait deux copies, une pour le commettant et une pour notre bibliothèque. » Qui ne dédaigne donc pas de recueillir aussi des fables païennes, dit Guillaume.
La bibliothèque est témoignage de la vérité et de l'erreur,
dit alors une voix dans notre dos. C'était Rolré. Encore une fois, je m'étonnais, mais j'aurais encore beaucoup à m'étonner les jours suivants de la façon inopinée dont ce vieillard apparaissait soudain, comme si nous ne le voyions pas, lui, et que lui nous voyait, nous. Je me demandais aussi ce que pouvait bien faire un aveugle dans le scriptorium. Mais je me rendis compte par la suite que Rolré était omniprésent dans toute l'abbaye. Et souvent, il se trouvait dans le scriptorium, assis sur un faudesteuil près de la cheminée, et il avait l'air de suivre tout ce qui se passait dans la salle. Une fois, je l'entendis demander à haute voix de sa place
« Qui monte ?»
Et il s'adressait à Malachi, qui, les pas étouffés par la paille, prenait le chemin de la bibliothèque. Tous les moines l'avaient en grande estime et s'adressaient souvent à lui pour la compréhension des passages difficiles, le consultant à propos d'une scolie ou lui demandant ses lumières sur la manière de représenter un animal ou un saint. Et lui regardait dans le vide, avec ses yeux éteints, comme s'il fixait des pages toujours vives dans sa mémoire, et il répondait que les faux prophètes sont habillés comme des évêques et que des grenouilles sortent de leur bouche, ou bien quelles étaient les pierres qui devaient orner les murs de la Jérusalem céleste, ou que les arimaspes se doivent figurer dans les cartes géographiques près de la terre du prêtre Jean, recommandant de ne point exagérer en les faisant séduisants dans leur monstruosité, car il suffisait qu'ils fussent représentés de façon emblématique, reconnaissable, mais non désirable, ou repoussant jusqu'au rire. Une fois, je l'entendis conseiller un scoliaste sur la manière d'interpréter la récapitulatio dans les textes de Tuconius selon l'esprit de saint Augustin, afin qu'on évitât l'hérésie donatiste. Une autre fois, je l'entendis donner des conseils sur la façon de distinguer, en commentant, les hérétiques des schismatiques, ou encore dire à un chercheur perplexe quel livre il devrait chercher dans le catalogue de la bibliothèque et à peu près à quelle page il en trouverait mention, lui assurant que le bibliothécaire le lui remettrait certainement parce qu'il s'agissait d'un ouvrage inspiré par Dieu. Enfin, je l'entendis dire une autre fois qu'il ne fallait pas rechercher certains livres, car il existait, c'est vrai, dans le catalogue, mais il avait été saccagé par les rats 50 ans plus tôt et se pulvérisait désormais sous les doigts de qui le touchait. Il était en somme la mémoire de la bibliothèque et l'âme du scriptorium. Parfois, il tançait les moines qu'il entendait bavarder.
« Hâtez-vous de laisser un témoignage de la vérité, car les temps sont proches !»
Et il faisait allusion à la venue de l'Antéchrist.
La bibliothèque est témoignage de la vérité et de l'erreur, avait donc dit Rolré.
Indubitablement, Apulée de Mador eut une renommée de magicien, dit Guillaume. Mais cette fable contient, sous le voile de ses fictions, une bonne morale aussi, parce qu'elle enseigne combien il en coûte de se tromper. Et en outre, je crois que l'histoire de l'homme transformé en âne fait allusion à la métamorphose de l'âme qui tombe dans le péché.
Il se peut, dit Rolré.
Mais alors je comprends maintenant pourquoi Venantius, au cours de cette conversation dont il me parla hier, portait un tel intérêt au problème de la comédie. De fait, les fables de ce type-là aussi peuvent être assimilées aux comédies des antiques. L'une et l'autre ne racontent pas l'histoire d'hommes qui existèrent vraiment, comme les tragédies, mais, dit Isidore, sont des fictions. Fabulae, poetae, affando, nomina verunt, quia non sunt, res factae, sed tantum loquendo fictae. Tout d'abord, je ne compris pas pourquoi Guillaume s'était engagé dans cette docte discussion, et précisément avec un homme qui paraissait ne pas goûter fort de semblables sujets. Mais la réponse de Rolré me dit combien mon maître avait été subtil.
Ce jour-là, on ne discutait pas de comédie, mais seulement du caractère licite du rire,
dit Rolré en s'assombrissant. Et de mon côté, je me rappelais parfaitement que quand Venantius avait mis sur le tapis cette discussion, pas plus tard que la veille, Jorge avait affirmé ne point s'en souvenir. « Ah !» laissa tomber Guillaume avec négligence. « Je croyais que vous aviez parlé des mensonges des poètes et des énigmes subtiles. »
« On parlait du rire !» dit Jorge d'un ton sec. « Les comédies étaient écrites par les païens pour pousser au rire les spectateurs, et ils faisaient mal. Notre Seigneur Jésus-Christ ne raconta jamais de comédie ni de fable, mais de limpides paraboles seulement qui nous instruisent allégoriquement sur la façon de mériter le paradis, et ainsi soit-il.
« Je me demande, dit Guillaume, pourquoi vous êtes tellement contre la pensée que Jésus ait jamais ri. Mais je crois que le rire est une bonne médecine, comme les bains, pour soigner les humeurs et les autres affections du corps, en particulier la mélancolie.
« Les bains sont une bonne chose, dit Rolleré, et le docteur Angélique lui-même les conseille pour chasser la tristesse, qui peut être passion mauvaise quand elle ne s'adresse pas à un mal qui se puisse éloigner par l'audace. Les bains restituent l'équilibre des humeurs.
Les singes ne rient pas. Le rire est le propre de l'homme. Il est le signe de sa rationalité, dit Guillaume.
La parole aussi est le signe de la rationalité humaine, et avec la parole, on peut blasphémer Dieu. N'est pas nécessairement bon tout ce qui est le propre de l'homme. Le rire est un signe de sottise. Qui rit ne croit pas en ce dont il rit, mais non plus ne le hait. Or donc, rire du mal signifie ne pas se disposer à le combattre, et rire du bien signifie méconnaître la force avec laquelle le bien se propage par sa propre vertu. C'est pourquoi la règle dit que le dixième degré de l'humilité est celui où le moine n'est pas toujours prêt à rire, parce qu'il est écrit « Stultus in risu exaltat vocem suam ».
Quintilien, interrompit mon maître, dit que le rire est à réprimer dans le panégyrique, par dignité, mais qu'il faut l'encourager dans beaucoup d'autres cas. Tacite loue l'ironie de Calpurnius Pison. Pline le jeune écrivit « Aliquando praeterea rideo, iocor ludo homo sum ».
C'était des païens, répliqua Rolleré. La règle dit « Excluons toujours et partout l'impudicité, les choses frivoles et les gausseries, et ne permettons absolument pas que le moine ouvre la bouche pour pareil propos. »
Cependant, quand déjà le Verbe de Christ avait triomphé sur la terre, Synésios de Cyrène dit que la divinité a su combiner harmonieusement comique et tragique, et Aelius Partien dit de l'empereur Adrien, homme de mœurs élevées et d'esprit naturalitaire chrétien, qu'il sut mêler des moments de gaieté à des moments de gravité. Et enfin, Ozone recommande de doser avec modération le sérieux et le plaisant.
Mais Paulin de Nol et Clément d'Alexandrie nous mirent en garde contre ces sottises, et Sulpice Sévère dit que jamais personne ne vit Saint-Martin ni en proie à la colère, ni en proie à l'hilarité.
Il rappelle pourtant de la part du saint plusieurs réponses spiritualitaires salsa, dit Guillaume.
Elles étaient promptes et savantes, pas risibles. Saint Ephrem a écrit une parénèse contre le rire des moines, et dans le De habitu et conversatione monacorum, il recommande d'éviter obscénité et saillie comme le poison des aspics.
Mais Hildebert dit « Admittenda tibi yoca sunt post seria quaedam », signe qu'il faut parfois tempérer l'excès de sérieux avec quelques traits d'esprit. Et Jean de Salisbury a autorisé une modeste hilarité. Et enfin l'ecclésiastique, dont vous avez cité le passage auquel se réfère votre règle, où l'on dit que le rire est le propre du sot, admet au moins un rire silencieux, celui de l'esprit serein.
L'esprit n'est serein que lorsqu'il contemple la vérité et se plaît au bien accompli et ne se rit de la vérité ni du bien. Voilà pourquoi Christ ne riait pas. Le rire est source de doute.
Mais parfois il est juste de douter.
Je n'en vois pas la raison. Quand on doute, il faut s'adresser à une autorité, aux paroles d'un père ou d'un docteur, et toute raison de douter cesse. Vous m'avez l'air bien imprégné de doctrines discutables, comme celle des logiciens de Paris. » Mais Saint Bernard sut intervenir à bon escient contre Abélard, le châtré, qui voulait soumettre tous les problèmes à l'examen froid et sans vie d'une raison dénuée de la lumière des Écritures. Certes, si quelqu'un accepte ces idées fort périlleuses, il peut aussi apprécier le jeu du sot qui rit de cela dont on doit seulement savoir l'unique vérité qui a déjà été dite une fois pour toutes. Or, en riant, le sot dit implicitement « Deus non est ».
Vénérable Rolleret, vous ne me paraissez injuste quand vous traitez Abélard de châtré, car vous savez qu'il encourut une aussi triste condition à cause de la mauvaiseté d'un autre.
À cause de ses péchés, à cause de son orgueil, placé dans la confiance en la raison de l'homme. Ainsi la foi des simples fut moquée. Les mystères de Dieu furent sondés, du moins on le tenta, des sots le tentèrent. Les questions qui concernaient les choses suprêmes se virent témérairement traités, on rit des pères, parce qu'ils avaient jugé bon que de telles questions fussent plutôt mises sous le boisseau qu'exposées.
Je ne suis pas d'accord, vénérable Rolleret. De notre part, Dieu veut que nous exercions notre raison sur les nombreuses choses obscures où l'Écriture nous a laissés libres de décider. Et lorsque quelqu'un vous invite à croire à une proposition, vous devez d'abord examiner si celle-ci est acceptable. Car notre raison a été créée par Dieu, et ce qui agrée à notre raison ne peut pas ne pas agréer à la raison divine, sur laquelle d'ailleurs nous savons seulement ce que par analogie et souvent par négation nous en inférons à partir des démarches de notre raison. Et alors, vous voyez que parfois, pour saper la fausse autorité d'une proposition absurde qui répugne à la raison, le rire aussi peut être un instrument juste. Souvent le rire sert même à confondre les méchants et à faire briller leur sottise. De Saint-Maur, on raconte que les païens le mirent dans de l'eau bouillante et qu'il se plaignit que le bain était trop froid. Le gouverneur païen trempa sottement sa main dans l'eau pour vérifier et se brûla. Belle action de ce Saint-Martyr qui ridiculisa les ennemis de la foi. Rolleret ricana.
Même dans les épisodes que racontent les prédicateurs, on trouve beaucoup de contes à dormir debout. Un saint plongé dans l'eau bouillante souffre pour Christ et retient ses cris. Il ne joue pas des tours d'enfant aux païens.
« Vous voyez, dit Guillaume, cette histoire vous paraît contraire à la raison et vous l'accusez d'être ridicule. Fût-ce tacitement et en contrôlant vos lèvres, vous êtes en train de rire d'une histoire et vous voulez que de mon côté je ne prenne pas cette histoire au sérieux. Vous riez du rire, mais... « Vous riez. »
Rolleret fit un geste d'agacement.
« En jouant sur le rire, vous m'entraînez dans de vains propos. Mais vous savez bien que Christ ne riait pas.
Je n'en suis pas certain. Quand il invite les pharisiens à jeter la première pierre, quand il demande de qui l'effigie sur les pièces à payer en tribut, quand il joue sur les mots et dit « Tu es Petrus », je crois qu'il s'agissait de pointes pour confondre les pécheurs, pour soutenir le courage des siens. Il fait même de l'esprit quand il dit à Caïphe « C'est toi qui l'as dit ». Et vous savez parfaitement qu'au moment le plus ardent de la lutte entre clunistes et cisterciens, les premiers accusèrent les seconds, pour les rendre ridicules, de ne pas porter de braies. Et dans le Speculum Stultorum, on raconte que l'âne Brunel se demande ce qui arriverait si la nuit le vent soulevait les couvertures et que le moine vit ses pudendas. Les moines autour de nous se mirent à rire, et Rolleret devint furieux.
« Vous êtes en train de traîner ses frères à une fête des folles. Je sais qu'il est d'usage parmi les franciscains de gagner la sympathie du peuple avec des idioties de ce genre. Mais de ces jeux frivoles, je vous dirai ce que dit un mot que j'entendis prononcer par un de vos prédicateurs. « Tum podex carmen extulit horridulum ».
La réprimande était un peu forte. Guillaume avait été impertinent, mais à présent, Rolleret l'accusait de lâcher des pets par la bouche. Je me demandais si cette réponse sévère ne devait pas signifier une invitation de la part du moine âgé à sortir du scriptorium. Mais je vis Guillaume, si combatif un instant plus tôt, se faire doux comme un agneau.
« Je vous demande pardon, vénérable Rolleret,
dit-il. « Ma bouche a trahi mes pensées. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Sans doute ce que vous dites est juste et j'étais dans l'erreur. » Jorge, devant cet acte d'exquise humilité, émit un grognement pouvant aussi bien exprimer la satisfaction que le pardon. Et il n'eut d'autre issue que de regagner sa place, tandis que les moines refluaient vers leur table de travail qui, au cours de la discussion, s'était peu à peu approchée. Guillaume s'agenouilla de nouveau devant la table de Venantius et se remit à fouiller dans ses parchemins. Avec sa réponse d'une grande humilité, il avait obtenu quelques secondes de tranquillité, et ce qu'il vit pendant ces secondes inspira ses recherches de la nuit. Mais ce furent vraiment quelques secondes. Banks s'approcha aussitôt en feignant d'avoir oublié son stylet sur la table quand il s'était joint aux autres pour écouter la conversation avec Jorge, et il murmura à Guillaume qu'il devait lui parler d'urgence, lui donnant rendez-vous derrière les balnéas. Il lui dit de s'éloigner le premier, qu'il le rejoindrait sans tarder. Guillaume hésita un instant, puis il appela Malachi, qui, de sa table de bibliothécaire près du catalogue, avait suivi tout ce qui était arrivé, et le pria, en vertu du mandat reçu de l'abbé, et il souligna beaucoup ce privilège, de placer quelqu'un à la garde de la table de Venantius, parce qu'il jugeait utile à son enquête que personne ne s'en approchât durant le jour entier, jusqu'à ce qu'il pût revenir. Il le dit à voix haute, car ainsi il engageait non seulement Malachi à surveiller les moines, mais les moines eux-mêmes à surveiller Malachi. Le bibliothécaire ne put qu'acquiescer, et Guillaume s'éloigna avec moi. Tandis que nous traversions le jardin et nous dirigions vers les balnéas qui se trouvaient adossés au bâtiment de l'hôpital, Guillaume observa « On dirait qu'il déplaît à beaucoup que je mette les mains sur quelque chose qui se trouve sur ou sous la table de Venantius. Et qu'est-ce que cela pourra bien être ? J'ai l'impression que ceux à qui cela déplaît ne le savent pas eux-mêmes. Banks n'a donc rien à nous dire et ne fait que nous attirer loin du scriptorium ?
C'est ce que nous saurons tout de suite, dit Guillaume.
Peu après, en effet, Banks nous rejoignit.